Ma demi-sœur, l'aînée de nous tous, l'étrangère, l'agréable laide aux yeux tibétains, se fiança à la veille de coiffer Sainte-Catherine. Si ma mère n'osa empêcher ce mauvais mariage, elle ne tut pas ce qu'elle en pensait. De la rue de la Roche à la Gerbaude, de Bel Air au Grand Jeu, on ne parla que du mariage de ma sœur. « Juliette se marie ? » demandait-on à ma mère. « C'est un événement !»«
Un accident !» rectifia Sido.
Certains risquaient, aigrement.
« Enfin, Juliette se marie ! C'est inattendu ! C'est un peu inespéré !»«
Non, » repartait Sido, belliqueuse, « c'est désespéré. Qui peut retenir une fille de 25 ans ?»« Et qui épouse-t-elle ?
Oh mon Dieu ! Le premier chien coiffé !»
Au fond, elle prenait en pitié la vie, gorgée de rêves et de lectures effrénées de sa fille solitaire. Mes frères considérèrent l'événement du haut de leur point de vue personnel. Une année d'études médicales à Paris n'avait pas apprivoisé l'aîné, haut, resplendissant et que le regard des femmes, quand ils ne les désiraient pas, offensait. Les mots « cortège nuptial »,« frac de soirée »,« déjeuner dînatoire », »,« défilé » tombèrent sur les deux sauvages comme des gouttes de poix bouillante.
« Je n'irai pas à la noce !» protestait le cadet, l'œil pâle d'indignation et toujours coiffé à la malcontent. « Je ne donnerai pas le bras, je ne mettrai pas un habit à queue !»«
Tu es le garçon d'honneur de ta sœur, » lui remontrait ma mère.
« Elle n'a qu'à ne pas se marier. Pour ce qu'elle épouse, un type qui sent le vermouth. D'abord, elle a toujours vécu sans nous, elle n'a pas davantage besoin de nous pour se marier. »
Notre belle aînée parlait moins. Mais nous lui voyions son visage de sauteur de mur, son regard qui mesurait les obstacles. Il y eut des jours difficiles, des récriminations que mon père soucieux et qui fuyait l'odorant intrus n'apaisait pas. Puis les deux garçons parurent consentir à tout. Bien mieux, ils suggérèrent l'idée d'organiser eux-mêmes une messe en musique. Et, de joie, Sido oublia pendant quelques heures son chien coiffé de gendre. Notre piano, hoché, prit le chemin de l'église, mêla son joli son un peu sec au bêlement de l'harmonium. Les sauvages répétaient dans l'église vide qu'ils verrouillaient la suite de l'Arlésienne. Je ne sais quelle stradella, un Saint-Saëns dévolu aux fastes nuptiaux. Ma mère s'avisa trop tard que ses fils, retenus à leur clavier d'exécutant, ne figureraient qu'un moment aux côtés de leur sœur. Ils jouèrent, je me le rappelle, comme des anges musiciens et ensoleillèrent de musique la messe villageoise, l'église sans richesse et sans clocher. Je paradais, fière de mes 11 ans, de ma chevelure de petite Ève et de ma robe rose, fort contente de toute chose, sauf quand je regardais ma sœur tremblante de faiblesse nerveuse, toute petite, accablée de failles et de tulle blanc, pâle et qui levait sa singulière figure mongole, défaillante, soumise au point que j'en eus honte, vers un inconnu. Les violons du bal mirent fin au long repas, et rien qu'à les entendre, les deux garçons frémirent comme des chevaux neufs. Le cadet, un peu gris, resta. Mais l'aîné, à bout d'effort, disparut. Il sauta pour pénétrer dans notre jardin, le mur de la rue des Vignes, erra autour de notre maison fermée, brisa une vitre, et ma mère le trouva couché quand elle rentra lasse, triste, ayant remis sa fille, égarée et grelottante, aux mains d'un homme. Elle me contait plus tard cette petite aube poussiéreuse d'été, sa maison vide et comme pillée, sa fatigue sans joie, sa robe à deux vents perlée, les chats inquiets que la nuit et la voix de ma mère ramenaient. Elle me disait qu'elle avait trouvé son aîné endormi, les bras fermés sur sa poitrine, la bouche fraîche et les yeux clos, et tout empreint de sa sévérité de sauvage pure. Songe donc. C'est pour être seule, loin de ses gens en sueur, pour être endormi et caressé par le vent de la nuit qu'il avait brisé un carreau. Y eut-il jamais un enfant aussi sage ? Ce sage, je l'ai vu 100 fois franchir la fenêtre, d'un bond, réflexe, à chaque coup de sonnette qu'il ne prévoyait pas. Grisonnant, tôt vieilli de travail, il retrouvait l'élasticité de son adolescence pour sauter dans le jardin, et ses fillettes riaient de le voir. Ses accès de misanthropie, encore qu'il les combattît, lui creusait le visage. Peut-être qu'il trouvait, captif, son préau chaque jour plus étroit et qu'il se souvenait des évasions qui jadis le menaient à un lit d'enfant où il dormait demi-nu, chaste et voluptueusement seul.